Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles? Ce sont là où les questions qu'on se pose aujourd'hui. On vous invite à y répondre directement sur la page de l'émission d'Accès libre en tapant lecanalm.vusevoix.com et en table ronde pour en discuter, parce que c'est important. Denise Archambault, orthophoniste à la retraite et bénévole à Vusevoix, ainsi que Madeleine Fauteux, orthopédagogue, personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage. D'autres questions qui vous concernent? On se demande avec Vincent François comment et pourquoi apprendre le braille aujourd'hui. On démystifie la dystrophie myotonique qui touche particulièrement les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on se fait un retour sur les Paralympiques de Pyeongchang 2018. Dans un instant, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est mise à mal par plusieurs scandales. Ce seraient les personnes en situation de handicap qui en souffriraient le plus. C'est ce que nous indique Linda Gauthier, porte-parole du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. On la reçoit à l'instant. La présidence contestée, les délais qui s'allongent dans le traitement des plaintes, la présidence par intérim qui quitte pour allégation d'inconduite, ça fait pas mal de scandales, difficile à prononcer en tout cas, ça fait pas mal de scandales pour une institution, la Commission des droits de la personne, qui est aussi déterminante au Québec. Steven Laperrière, qui est président du RAPLIC, Linda Gauthier, porte-parole du RAPLIC, dans un communiqué, ont fait entendre toute leur inquiétude. Cette dernière est d'ailleurs avec nous au téléphone. Bonjour, Linda Gauthier.
Oui, bonjour.
Bonjour, Linda.
Je m'excuse. Oui.
Non. Mon préambule était un peu trop long, je m'en excuse,
non, absolument
Linda.
Non, pas, non, je dormais pas. Croyez pas. Oui, comment allez-vous?
Ben, je suis désolé d'être aussi de bonne humeur de vous parler, mais il reste quand même que la situation n'est pas très agréable.
Non, pas très.
Qu'est-ce qui se passe exactement à la Commission des droits de la personne?
On ne le sait pas trop, exactement.
OK, oui.
Mais ça tombe comme des mouches, là. C'est vraiment, les têtes roulent, ça n'a pas de bon sens. On se demande un peu si c'est l'œuf ou la poule, hein, parce
ouais.
que... Là, l'Assemblée nationale a rectifié les choses il y a quelques semaines en allouant plus de budget, en fait, parce que là, c'était rendu que le lot de travail était tellement élevé que les gens partaient, là.
Ah oui.
C'est quand même des bons emplois, tu sais, puis ils partaient parce que c'était trop. Fait que, on blâmait un peu l'Assemblée nationale, on se disait peut-être de leur faute et tout ça, ça faisait longtemps d'ailleurs que, mais il y a plus que ça. Il y a eu des mises à pied de personnel d'enquêteurs qui étaient accusés de pédophilie. Et là dernièrement, ben le président par intérim, mais en tout cas on n'est pas vraiment là nécessairement pour faire son procès.
Non, c'est sûr, mais en fait bon, la justice suit son cours, il y a des allégations d'inconduite sexuelle,
oui.
Il est représenté, bon, il a démissionné, mais il reste qu'au-delà de cette situation particulière, qui est la dernière en date, là, est-ce qu'il y a des raisons systémiques qui feraient que cette organisation-là a trop de pression ou n'arrive pas à marcher?
Honnêtement, les raisons, c'est probablement la montée fulgurante des plaintes, je le prends un peu sur moi.
C'est vrai.
Ça a monté quand même en flèche. Je pense que c'est de 35 % Il y a eu quand même 35 % de plus de plaintes depuis 2010. Ça coïnciderait exactement avec la fondation du RAPLIC. Puis je dois avouer qu'on a contribué. Nous, on pensait créer de l'emploi de cette façon-là, mais c'est que ça n'a pas été ça n'a pas été vu de la même façon.
Pour que les gens comprennent, c'est que très souvent, le RAPLIC accompagne dans le processus de plainte en amont d'une plainte au tribunal des droits de la personne. C'est ça?
Exactement, hein? C'est ça. Et parce qu'il y a des ententes en médiation qui peuvent être prises, alors à ce moment-là, les médiations se tiennent à la commission, qui n'est pas un tribunal. La commission est une instance judiciaire.
Oui.
Et c'est ça, il y a beaucoup de dossiers, de litiges qui sont réglés en médiation, c'est un excellent véhicule, je trouve.
Mm-hmm.
Et si c'est pas réglé, ça va évidemment en investigation. Et plusieurs années plus tard, c'est les tribunaux, le tribunal des droits de la personne qui vont entendre la plainte s'il n'y a pas eu entente hors cours.
Oui, parce que c'est long, ce processus-là.
Très.
Du moment qu'on dépose jusqu'à se faire entendre par un juge, on peut compter combien d'années en moyenne, le savez-vous?
En moyenne, 4.
4 ans? Ah oui.
Oui, mais ça peut être plus long. On en a une, là, ça fait 7 ans, c'est pas réglé encore.
OK.
Alors, c'est toujours très long. C'est quelque chose qui ça devrait pas être comme ça, on le sait. Mais, en tout cas, bref, nous, ce qu'on se dit, c'est que dans un premier temps, la Commission des droits ont quand même de très bons médiateurs et de très bons évaluateurs et tout ça. Il faut absolument que ça reste.
Ben oui, il faut préserver cette institution-là, c'est sûr.
Ben
oui.
De la manière c'est parti là, on se demande, crime, ils vont-tu mettre la commission sous tutelle, tu sais, des choses possibles. Fait que je pense que il faut pas que les gens, parce qu'on a reçu beaucoup, beaucoup d'appels en disant, mais mon Dieu, ça va-tu tomber, qui c'est qui va traiter nos plaintes, c'est-tu tout des comme ça, faut pas voir ça de cet œil-là. Je pense qu'il faut continuer à se dire que c'est notre accès à la justice, nous, personnes discriminées. Je parle autant tous les groupes qui sont visés par l'article 10 de la Charte, les personnes handicapées, les personnes de couleur, les personnes qui ont une autre orientation sexuelle, identité sexuelle et tout ça, et qui vivent de la discrimination. Il faut continuer à dénoncer et à porter plainte. Et ceux qui veulent qu'on les accompagne, ça va nous faire plaisir.
Ben oui, mais vous êtes toujours là pour accompagner, aider à constituer un dossier aussi, redonner confiance, hein, parce que c'est parfois un périple long. Alors, il faut rester en contact. Linda Gauthier, si j'entends bien, là, votre cri d'aujourd'hui, c'est un peu à la défense de la Commission des droits de la personne qui a peut-être des intérêts supérieurs, disons, à la conjoncture très difficile.
Oui. Ben oui, absolument. C'est là que j'y vais. Je me dis oui, parce que c'est pas pour les aider à préserver leur emploi et tout ça. Tant mieux si c'est ça qui arrive. Mais je veux dire, c'est pour continuer, je pense égoïstement, là.
Okay.
Qu'ils soient là pour nous aider à nous donner un accès à la justice, parce que sinon, c'est gratuit.
Oui.
Sinon, on doit se rabattre sur les tribunaux de droit commun, puis là, c'est des sous.
Ah oui, c'est ça. Parce que c'est en fait, ce qui se passe, c'est quand un dossier est pris en charge par la Commission des droits de la personne, l'avocat est pourvu au tribunal.
C'est ça le
système. OK. Les motifs, en fait, le motif du handicap est celui qui est le plus souvent évoqué pour des poursuites, Linda Gauthier, c'est ça?
Je pense que oui, c'est 37%.
Mm-hmm. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est vraiment les personnes en situation de handicap qui sont pénalisées par les déroutes actuelles de la commission.
Bien, tout à fait. Tout à fait.
Okay.
Effectivement. Parce que on peut avoir des gens qui vont être d'orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, puis qui vont être discriminés. Bien, souvent, ces gens-là travaillent, ont un bon revenu. T'sais, ça va tout ensemble. Là.
Oui, mais les personnes en situation de handicap sont davantage appauvries.
Exactement. Le revenu est toujours assez limité. C'est ça.
Donc, avant de se quitter, vous avez aussi mentionné la commission sur les discriminations systémiques et le racisme, qui aurait peut-être dû inclure, selon vous, le motif du handicap.
Pas peut-être, définitivement.
Définitivement.
Oui.
Est-ce que vous avez eu de l'écho à cette revendication-là?
Pas tellement, mais là, on a un nouveau président par intérim,
qui
est Jean-Philippe ou Philippe Tessier, je me souviens pas trop du nom. On lui a demandé un rendez-vous, d'ailleurs, et on va le relancer, parce que c'est sûr que c'est ce que ça prend, là. Là, il faut arrêter de penser qu'on dirait que même des fois, à la commission, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la discrimination systémique. Et pour une personne handicapée, c'est les marches, hein, ou les escaliers qui handicapent, et non pas nos fauteuils ou nos marchettes ou nos aides à la mobilité.
Puis souvent les attitudes aussi. Hein.
Ouais. Les attitudes aussi. Alors, c'est non, on va les relancer définitivement. Ça nous prend absolument ça. Et puis, on lâche pas, là. Faut pas lâcher.
Non, donc, c'est ça votre mot d'ordre. On lâche pas, Linda Gauthier. On sait que vous ne lâchez pas, vous, au Rapplic. On espère que la Commission des droits de la personne l'automne reprendra du lustre, en fait, perdra de son aura de scandale. Merci, Linda Gauthier, porte-parole du RAPLIC. Et on vous suit. On continue de vous suivre. Merci.
Je vous remercie. Bonne journée.
Bonne journée. Bye.
Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière. Pas de lune,
nous en ferons une. Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Dystrophie myotonique. C'est un nom qui pourrait faire peur, rebuter, et ceci dit, il faut le démystifier. Il y a des gens qui le font, surtout que nos voisins, j'allais dire, les habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont plus souvent aux prises avec ce trouble, cette maladie. Alors avec nous, Cynthia Gagnon, qui est directrice scientifique du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, qui est associée au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est avec nous. Bonjour, Madame Gagnon.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Bien, ça me fait plaisir, puis merci pour l'invitation pour, dans le fond, aider à vulgariser qu'est-ce que la dystrophie myotonique. Je pense que c'est très important, puis je suis très content de l'attention qui est portée à cette maladie-là.
Bien, voilà. Alors, on fait un effort de vulgarisation ensemble. Il faut dire qu'on le fait ensemble, mais c'est d'abord votre équipe qui le fait. Peut-être que vous pourriez d'emblée nous dire en quoi ça consiste exactement.
Oui, tout à fait. Donc, la dystrophie myotonique, c'est une maladie neuromusculaire. Donc, comme son nom l'indique, qui va affecter principalement les muscles. Mm-hmm. C'est une maladie qui est lentement progressive. Donc, comparativement, par exemple, à la sclérose latérale amyotrophique que souvent le public connaît plus, c'est une maladie qui va progresser sur des années. On parle d'à peu près 1% de perte de force musculaire. Mm-hmm. Ça va être vraiment un patron très particulier, c'est-à-dire que ça va du bout des doigts aux épaules et du bout des orteils aux hanches. Mm-hmm. Donc, progressivement, on va avoir de la misère à relever le pied, à prendre des objets, et tranquillement, pas vite, ça va affecter la marche et la capacité de faire l'ensemble des activités de la vie quotidienne.
Donc, c'est vraiment sur le long terme, là. Est-ce que c'est plus facile pour les personnes qui le vivent de faire le deuil ainsi, ou comment ça se passe, comment c'est vécu par les personnes?
Bien, d'abord, il faut savoir que c'est une maladie qui est qui est plus complexe dans sa présentation clinique parce que, dans le fond, il y a d'abord, je dirais, quatre portraits cliniques. Alors, normalement, on a le grand-père qui a 50-60 ans, qui a des cataractes et un peu de misère à ouvrir la main quand il prend des objets. Il a eu ses enfants sans savoir qu'il y avait la maladie et son fils, dans la vingtaine, va commencer à avoir des atteintes musculaires. Et par la suite, si lui a des enfants sans le savoir, là, on va avoir des atteintes au niveau pédiatrique, donc, dans le fond, à l'adolescence ou même à la naissance, chez la forme la plus sévère, qu'on va appeler la forme congénitale, donc qui arrive avec des enfants vraiment hypotoniques, avec des problèmes de succion, des problèmes respiratoires et des déficiences intellectuelles sévères. Fait que, dépendamment de la forme, je vous dirais que oui, c'est un processus qui est beaucoup plus à long terme. Donc, les gens vont avoir le temps de s'adapter à la maladie. Ça n'en reste pas moins une maladie qui a des conséquences vraiment importantes sur la capacité à travailler, à aller à l'école, à s'occuper de ses enfants aussi là, quand la maladie progresse. Donc, c'est vraiment... Mais c'est moins rapide, dans le fond, que la sclérose, que la SLA.
Et bon, ceci dit, il y a quand même, j'imagine, des densités. En fait, là, vous parliez d'une déficience plus lourde là, chez certains nouveau-nés dans sa forme congénitale. Malgré tout, c'est ça, vous le dites, il y a possibilité que ce soit plus difficile pour certains cas, là.
Ah oui, tout à fait. Puis, c'est une maladie familiale, parce que c'est une maladie qui est dominante. Donc, on a une chance sur deux de transmettre la maladie à notre enfant à chaque naissance.
Et donc, c'est une maladie génétique qu'on...
Oui, exactement. Ouais. Une maladie génétique. Et donc, et souvent, c'est parce que le père ou le grand-père ou la mère ou la grand-mère ne sont pas au courant qu'ils ont la maladie. Donc, ça va dans le fond, ça va se transmettre sur quelques générations avant qu'on ait vraiment le premier diagnostic. Au Canada, c'est moins le cas parce que la maladie, bon, à cause du Saguenay et du Québec en général, est plus fréquente. Mais quand on parle des États-Unis ou ailleurs dans le monde, souvent la maladie va être diagnostiquée, dans le fond, quand on va avoir une forme pédiatrique. Et là, on va remonter et on va savoir que la mère ou la grand-mère avait certains symptômes, mais qui sont passés un peu inaperçus ou qui ont eu d'autres diagnostics.
De là, l'importance de proposer des outils pour expliquer, vulgariser aux gens. Vous avez rédigé un outil pour aider à détecter, à informer davantage sur la maladie. Qu'en est-il de ce projet exactement?
Oui. Bien, dans le fond, nous, on avait déjà produit comme groupe de recherche des guides de pratique, dans le fond, pour les médecins de famille,
pour les professionnels.
Oui, exactement, et pour les neurologues. Et on a un organisme régional qui fait de l'éducation à la génétique chez la population en général au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle CORAM. Et dans le fond, cet organisme-là vise à mieux outiller la personne en lien, dans le fond, les familles de la région en lien avec l'hérédité, les maladies génétiques, mais aussi a développé plus récemment un volet pour outiller les patients pour vraiment connaître les signes de leur maladie et les aider, dans le fond, à mieux se prendre en charge et à aussi informer les professionnels de la santé. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, c'est une maladie plus commune, entre guillemets, et donc les professionnels de santé, généralement, sont au courant des principales manifestations. Mais dès qu'on sort du Saguenay, on peut s'attendre à ce que le médecin de famille ou l'ergothérapeute ou le neurologue ne connaissent pas très bien cette maladie. Et c'est tout à fait normal, je veux dire. On parle maintenant de 6000 maladies rares, donc on ne peut pas s'attendre à ce que notre médecin connaisse tout ça. Donc, le but, c'est vraiment que le patient et sa famille connaissent mieux les signes, dans le fond, les signes importants à surveiller, les actions à poser. Bon, il faut que je passe un examen cardiaque à chaque année. Il faut que je me fasse vacciner à chaque année. Donc, c'est des gestes très simples. Mais si les personnes sont bien informées, ben, ils vont être capables aussi d'informer leurs professionnels de la santé des gestes à poser.
Est-ce que ça peut même avoir... Excusez-moi, est-ce que ça peut même avoir un impact sur la progression de la maladie que de le savoir en avance? Est-ce qu'on a accès à des traitements?
Tout à fait, parce que la deuxième cause de décès dans la dystrophie myotonique, c'est l'atteinte cardiaque. Mais cette atteinte-là, elle est silencieuse. Donc, si la personne ne passe pas son électrocardiogramme à chaque année, il se pourrait que sa condition se détériore et qu'un jour, on arrive à une mort subite. Ça aurait été totalement... Bien, ça aurait été en partie prévenant parce qu'on peut implanter un pacemaker ou un défibrillateur, dépendamment de la problématique, et ainsi prévenir un événement cardiaque. Donc, c'est vraiment important là, d'aller faire ce dépistage-là à chaque année parce que la majorité des gens n'auront aucun symptôme que leur atteinte cardiaque est en train de progresser. Donc, oui, on peut avoir vraiment un impact là, sur la progression de certains symptômes ou la gestion de certains symptômes.
Donc, aidons les gens à s'aider en décelant, en retraçant mieux cette maladie. Il est possible d'accéder à la brochure via Internet, j'imagine?
Oui, c'est-à-dire que Coram, présentement, elle est disponible pour les cliniques des maladies neuromusculaires. Mm-hmm. Par un concours de circonstances, Coram est en train de faire la refonte de son site web. Ah. Donc, dès que le site web va être mis à jour, on va avoir accès à la brochure en ligne.
Mm-hmm. Donc, pour l'instant, c'est dans les cliniques, dans le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pourrait le retrouver, mais dans combien de temps on pourrait espérer sur Internet?
Probablement d'ici, je dirais probablement un mois, on va être capable d'accéder
donc,
à la brochure.
On le donne, ce site web, c'est le coramh.org,
oui.
Donc pour la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires, le CORAM. Merci beaucoup, Cynthia Gagnon. Bravo pour votre travail. Rappelons que vous êtes directrice scientifique du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Merci, Mme Gagnon.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Et cette question est pertinente puisque le livre audio est souvent utilisé, mais on doit se poser la question encore aujourd'hui. Pourquoi apprendre le braille? Pourquoi déployer ou plutôt transposer des textes en braille? Avec nous, la référence sur les communications accessibles, Vincent François, bonjour!
Bonjour.
Bonjour. Alors, on y arrive. Finalement, on va parler de braille aujourd'hui.
Oui.
Bon, ben, si on rit, c'est parce que la dernière fois, il y a eu méprise. Je suis obligé de le rappeler. C'est moi qui ne savais pas que Vincent François allait nous parler de braille. Alors aujourd'hui, on y arrive. La question, je vous la pose en mille, Vincent François. Pourquoi, encore aujourd'hui, on doit apprendre le braille?
Eh bien, en fait, connaître le braille est très important pour une personne aveugle ou malvoyante aujourd'hui, notamment pour la question de l'emploi.
Mm-hmm.
J'ai des chiffres aux États-Unis où 74% des aveugles sont actuellement sans emploi. 74%, c'est énorme.
C'est...
Et ceux qui en ont un sont en majorité des gens qui maîtrisent le braille.
Mm-hmm. Ah oui, il y a une corrélation directe.
Oui, absolument.
Ah.
Et donc, le problème, c'est que l'apprentissage du braille, là encore, j'ai des chiffres aux États-Unis, est en chute libre depuis les années 80.
Mmh.
Les enfants en bas âge scolaire, le connaissant, sont passés de 50% dans les années 80 à 12% aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Alors, les raisons de ça, c'est un petit peu comme tu disais en introduction, c'est d'abord les diminutions des heures d'apprentissage dans le système public.
Mmh.
Bon, c'est des chiffres américains, mais c'est des problèmes qu'on peut retrouver dans différents pays.
Absolument.
Système public où se concentrent justement les personnes aveugles.
Mmh.
Et puis, il y a aussi une croyance selon laquelle les ordinateurs qui parlent vont remplacer le besoin de connaître le braille.
Mmh.
Et c'est vrai que c'est pourtant la technologie n'est pas apporte beaucoup de cadeaux, apporte beaucoup de solutions, mais elle ne remplace pas le besoin qu'on peut avoir de manipuler des textes avec le braille.
Oui.
Parce que le braille est vraiment identifié comme aidant à l'apprentissage de la grammaire, aidant à l'apprentissage de la langue, les mathématiques et les sciences. Donc on se retrouve au cœur de tous les apprentissages à travers l'utilisation du braille.
Ah oui, un surcroît dans l'apprentissage grâce au braille, on développe de meilleures capacités?
Oui, Ça aide dans tous ces domaines-là.
Impressionnant. Et parlez-nous peut-être du bec d'eau, où on dit bec d'eau.
Ben voilà, donc il y a deux petits, je pense que c'est dot parce que c'est anglais, il y a deux outils d'apprentissage du braille qui ont été développés, qui sont assez nouveaux, mais qui sont développés par des gens qui sont au cœur du besoin, puisque dans le premier, ce sont les parents d'une fille malvoyante qui a réalisé le prototype d'un jeu. Et on sait que c'est pendant l'enfance qu'il est le plus facile d'acquérir des connaissances. Donc, le principe du jeu pour apprendre le braille à ses enfants a été retenu. Donc, ça s'appelle le bec dot. Ça se présente comme quatre caractères braille interactifs, donc quatre caractères, comme quatre lettres, plus un support qui reçoit des petites figurines. Mmh. Et la figurine qu'on pose sur le support est reconnue par l'appareil, et celui-ci peut alors faire sortir les picots qui correspondent aux lettres de l'animal, de la petite figurine, un chat, un cochon, qui est posé. Wow. Ce qui fait que l'enfant aussi le mot qu'il touche d'une main, et la figurine en relief qu'il touche de l'autre main. Et on peut aussi, et c'est souvent ce qu'on fait avec le braille, associer la prononciation du mot,
à un
qui fait que l'enfant va avoir le toucher, le mot en toucher, et par l'oreille le mot, et ça permet d'apprendre.
Uh-huh.
Un autre petit outil d'apprentissage qui s'appelle le read-read, lire-lire, qui lui est par contre pour tous les âges, et c'est encore un prototype qui vise un apprentissage indépendant. C'est sorti des Harvard Innovation Labs par un étudiant qui s'appelle Alex Tavares. Mm-hmm. Et là, la prononciation permet de vérifier les exercices et l'apprenant n'a pas besoin d'être accompagné. Donc là encore, on a possibilité d'avoir un apprentissage tout seul, et ce qui est important pour le développement des compétences, qui est important pour le développement de l'autonomie qui vient avec le braille.
Mmh.
Et non, là, on déplace des tuiles mobiles qui contiennent des lettres de l'alphabet, un peu comme au Scrabble, et il y a aussi des lettres, il y a aussi des suffixes phonétiques, et ensuite, l'utilisateur les place ces tuiles-là pour former des mots et presse sur le doigt pour les entendre et peut vérifier ainsi qu'il a bien composé les mots qui sont prononcés et vice-versa. Donc là encore, ce sont des prototypes, mais ce sont des outils qui s'appuient sur le fait de s'amuser et d'apprendre en s'amusant pour braille qui est un peu abandonné dans les apprentissages classiques.
Et est-ce qu'avant, on employait d'autres méthodes, c'est ce que je comprends?
Ben, je n'ai pas connu, moi, ces autres méthodes-là, donc je ne sais pas comment ça s'est fait. Il faudra demander à des gens qui ont des gens plus âgés qui ont appris le braille.
Ben, en tout cas, elles sont ludiques, elles sont intéressantes. D'ailleurs, on mettra sur la page de l'émission des liens pour mieux les connaître. D'ailleurs, le ReadRead cherche du financement sur la plateforme Kickstarter.
Absolument.
Donc, il faudra les soutenir. Je rappelle leurs deux noms, BecDot, ReadRead, et je rappelle le vôtre, Vincent François. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois que t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. N'en donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort.
D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos, car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Et cette question vous est posée à vous qui nous entendez sur le câble ou peut-être sur canalem.vuzevoix.com. Vous pouvez répondre directement sur la page. D'ailleurs, vous pouvez aussi répondre sur les réseaux sociaux. Dites-nous si vous trouvez ça intéressant, les livres adaptés, si vous les utilisez, quelles sont vos expériences, si vous trouvez ça difficile d'y avoir accès, parce que c'est quand même, on va se le dire, un marché assez émergent. Il y a des groupes qui en proposent, mais bon, c'est pas dans toutes les bonnes librairies ou même dans les bibliothèques. Alors, voilà, répondez à la question. Et vous le savez, l'émission, c'est notre tradition. On souhaite alimenter la conversation. On a avec nous deux personnes qui sont mordues de troubles d'apprentissage. Notamment, avec nous, Denise Archambault, qui est orthophoniste à la retraite, donc a travaillé pendant 40 ans auprès des jeunes qui ont des troubles du langage. Elle est aussi bénévole à Vues et Voix. On l'entend, hein, j'imagine? On vous entend dans des livres très souvent?
Bien sûr, depuis 5 ans en tout cas.
Donc depuis 5 ans, si vous empruntez des livres via le SQLA à la Bibliothèque et Archives nationales, ceux qui sont produits par Vues et Voix, vous allez peut-être entendre Denise Archambault. Bonjour, Denise Archambault. Donc.
Bonjour.
Vous allez intervenir un peu plus tard, mais d'abord, je m'adresserai à Madeleine Fauteux, qui est orthopédagogue, qui est une personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage. Rappelons d'ailleurs que vous êtes en plein colloque ou en fait à la veille d'un colloque sur les troubles d'apprentissage à l'Institut.
Effectivement, notre colloque sur les troubles d'apprentissage ayant pour thème troubles d'apprentissage et défis dans le monde de demain. Mm-hmm. Alors, il se tient cette semaine du 21 au 23 mars à l'hôtel Westin. Et justement, notre présidente est Mme Brigitte Stanquet.
Ben oui, Brigitte Stanquet, qu'on aura l'occasion de rencontrer dans une autre émission. Ceci dit, Mme Fauteux, vous êtes en première ligne. Vous voyez tous ces besoins qui sont de plus en plus importants. Rappelons qu'une personne sur 10 au Québec a des difficultés d'apprentissage.
Effectivement, on parle d'une personne sur 10 ayant des troubles d'apprentissage.
C'est énorme.
Beaucoup.
Et ça ressemble à quoi exactement ces troubles d'apprentissage?
Alors, on va principalement on va trouver des troubles de lecture, mm-hmm. d'apprentissage de la lecture, donc de dyslexie.
Ah oui.
Et des troubles d'apprentissage de l'écriture, dysorthographie. Mm. On va retrouver dyscalculie aussi, d'autres troubles.
Dyscalculie, on l'entend, c'est le
on
calcul.
Effectivement. Mais je dirais que la majorité des téléphones, des demandes, mm-hmm. pour l'instant, vont toucher de façon plus spécifique les troubles en lecture, la dyslexie. Mm-hmm. Donc, évidemment, on peut parler de troubles d'apprentissage de façon plus large les jeunes, chez les adultes aussi.
Oui, parce qu'on a une période, on est dans une période où on diagnostique davantage, mais on peut s'imaginer que pendant des générations, on n'a pas trop porter attention là, aux difficultés. En général, c'était tu sais pas ta matière, tant pis pour toi. Apprends davantage.
Effectivement.
Mais donc, ce bassin-là est très important. Vous avez montré jusqu'à quel point il peut être diversifié. C'est quoi les difficultés de Thierry?
Thierry, c'est un élève qui a notamment des difficultés en lecture, dyslexie, dysorthographie.
Donc ça, c'est un cas type que vous utilisez?
C'est un... personnellement, je le connais moins. J'en ai entendu beaucoup parler.
Ouais.
C'est beaucoup pour vues et voix. C'est un élève pour lequel vues et voix ont enregistré des romans au secondaire, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de romans à lire au secondaire. Mm-hmm. Ils ne sont pas tous disponibles en mode audio. Mm-hmm. On parle ici de mode audio, alors l'expérimentation visait à enregistrer des romans pour répondre aux besoins de Thierry. Et effectivement, les retombées ont été grandioses.
Mais donc, c'est une inspiration. En quelque part, c'est ce premier élève, je dirais... pour lequel on a voulu répondre à ses besoins, puis c'est devenu pratiquement l'initiateur de tout le reste. J'exagère quand je dis ça?
C'est un projet qui va bon train, effectivement.
Oui, ça va bien.
Donc, l'expérience étant très positive. Mm-hmm. Le projet, Lucie Robitas pourrait vous en parler davantage, puisque c'est elle qui est l'initiatrice de tout ce projet. Alors, le projet a été ouvert dans une plus large mesure.
Mm-hmm. Ouais. Bon, alors on apprécie que ça soit maintenant rendu disponible au plus grand nombre. On est aussi avec Denise Archambault, qui partage un peu la même science que vous, mais qui depuis 5 ans fait des livres, travaille des livres adaptés audio. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, parce que vous voulez côtoyer au quotidien ces livres-là?
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est? Il faudrait peut-être préciser aussi à qui s'adresse le livre audio adapté. Parce mm-hmm. que dans le cas de Vues et Voix, on parle de livre audio adapté.
Oui, c'est important.
Parce qu'il existe des livres audio, là. Bon.
Ouais.
Mais ici, c'est un livre audio adapté qui... en tout cas, je préciserai peut-être tantôt.
Mais vous pouvez le dire. En fait, c'est quoi la différence? Un livre audio ne mentionnerait pas tout? Il y a moins d'audio description, qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est pas enregistré de la même façon.
Ah.
Et on peut avoir accès au livre audio adapté à l'aide de... On peut le télécharger à l'aide d'un logiciel comme AMI, le logiciel AMI,
mm-hmm.
ou on peut utiliser un petit appareil qui s'appelle le Victor Reader.
Okay.
Bon, qui permet... Et cet appareil-là permet de lire, c'est-à-dire de se repérer, de repérer les chapitres, les pages. On peut aussi ralentir la lecture sans que la voix soit altérée à l'aide de cet appareil.
Ouais.
Alors, pour des enfants qui sont en difficulté, par exemple, ou qui ont des troubles moteurs qui sont en difficulté de lecture, c'est vraiment un outil précieux. Et c'est particulier, c'est très différent là, comme dans son mode d'utilisation qu'un livre audio régulier, là, normal.
Plus standard, OK.
Oui, plus standard,
Et vous y œuvrez, donc, à la, à la production de ces livres audio adaptés. Ces différences-là, on les comprend. Comment ça peut aider les jeunes, en fait? Comment on arrive à être aidé par un livre audio adapté?
Comment on y arrive? J'aimerais apporter quelques précisions. Est-ce que je peux me permettre
ça?
C'est encore un grand méconnu en milieu scolaire, le livre audio adapté. Et il est peu utilisé encore comme mesure d'aide en milieu scolaire. Il est peu recommandé dans les plans d'intervention. Et pourtant, c'est un outil technologique qui est répertorié comme mesure d'aide.
Oui,
là.
Absolument, oui.
Et il est gratuit. Il est facile d'accès par le réseau des bibliothèques. Il est facile à manipuler avec, le petit appareil reader. Et puis, il donne accès à un vaste répertoire d'œuvres littéraires en français et en anglais. Alors, pour des enfants qui auraient des difficultés, on parle de dyslexie, dysorthographie, comme orthophoniste, je pense à toute la clientèle des enfants, par exemple, qui ont un trouble de langage.
Oui.
Qui doit fournir beaucoup d'efforts pour apprendre à lire et qui ont pendant longtemps des difficultés à encoder, à décoder, et pour qui la lecture demeure laborieuse.
Même décourageante.
Parce
que s'attaquer au livre quand on présente des difficultés, ça fait qu'on ne le termine pas, ça fait qu'on ne trouve pas ce qui cache comme trésor, et là...
Et c'est le grand risque, c'est que
ils
perdent complètement
pour la,
la motivation à la lecture. Alors, justement, c'est ce qu'on veut favoriser par le livre audio adapté. On veut permettre à ces enfants de pouvoir lire, mais lire autrement.
Bien sûr.
Parce que lire avec un livre audio, c'est lire, mais c'est lire autrement.
Ces livres-là, ils sont de plus en plus... ils sont en plus recherchés, mais pas assez parce qu'on est obligé d'intervenir, là. est-ce que vous entendez... Comment les gens qui les empruntent ou les utilisent reçoivent ça? Est-ce que les jeunes, ils se sentent en train de lire? Est-ce qu'ils trouvent ça, au contraire, plus habituel comme mode?
Beaucoup plus intéressant.
Comme les balados, ou etc.
Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que, grâce à la voix humaine, parce que c'est certain que, aujourd'hui, avec tous les outils technologiques qui sont à leur disposition, il y a les ordinateurs avec les voix de synthèse.
Oui.
Mais... écouter un livre avec une voix humaine où l'intonation, le rythme, les émotions sont données par un lecteur expérimenté, c'est toute la différence.
Absolument, oui.
Et tantôt, Madeleine mentionnait les élèves du secondaire qui ont souvent des romans et des textes de plus en plus longs et complexes à lire. Alors, ça devient un outil précieux pour
Bien
eux.
Bien sûr. Et souvent même, il faut le rappeler, il y a des élèves dont le français n'est pas la première langue.
Alors
cette manière d'entrer en contact avec le texte est très aidante. Là.
Très, très. Pour tous les élèves allophones. Là.
Ouais.
En tout cas, c'est un souhait pieux qu'on fait parce que ça n'entre pas encore dans les définitions. Dans la déficience perceptuelle, ce n'est pas une clientèle qui est... intégré, mais moi, c'est un souhait que je ferais, qu'on puisse inclure tous les enfants allophones qui pourraient se familiariser avec la mélodie de la langue française.
Parce qu'il y a ça aussi, c'est lu, mais évidemment, c'est entendu, donc nécessairement, ça va aider notre conversation, éventuellement, ou d'autres manières d'utiliser la langue.
Oui, bien sûr. Et comme tantôt, vous me demandiez mon rôle, ou en tout cas comme bénévole à Vues et Voix, en tout cas, je peux assurer les gens de la qualité sonore des productions à Vues et Voix. Et tous les bénévoles qui sont des lecteurs expérimentés.
Bien sûr, des voix magnifiques. Écoutez, des gens qui ont fait, par exemple, la radio toute leur vie, qui ont souvent été professeurs, orthopédagogues orthophonistes, pardon. Ils prêtent leur voix à des livres, puis c'est heureux de les entendre.
Tout à fait. Bon. Ils sont capables de rendre une lecture pas seulement expressive, et surtout dans le cas des... si on parle des albums jeunesse, oui. par exemple, on peut distinguer là, pour les adultes.
On le présente pas différemment. Non, on le présente différemment.
C'est ça, parce que pour les adultes, on peut se limiter à une lecture expressive. Mm-hmm. Bon. Et c'est ce qu'on fait, là, à vue et voix. Mais pour les jeunes, les romans jeunesse, les albums...
Ça peut être davantage didactique, vous pouvez...
Non, il faut une lecture interprétative.
Ah, interprétative,
où
oui.
on va faire ressortir les émotions, mm-hmm. certains mots de vocabulaire, où on va lire peut-être un petit peu plus lentement, mm-hmm. en
ben oui, par groupe de mots. Pour que les enfants mettent du sens aussi, c'est ça. Que ça soit clair pour eux.
Voilà.
Ah oui, bon.
Voilà.
Écoutez, on ne pouvait pas avoir meilleur passionné pour nous présenter le livre audio. Peut-être qu'un peu après, on pourrait revenir avec Mme Fauteu, après cet instant musical, pour comprendre un peu mieux sur le diagnostic, comment on accède aux livres, comment tout ça s'installe dans la grande chaîne de l'apprentissage.
Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Continuez de répondre à la question sur canalm.vuesetvoix.com. Vous le savez, c'est un peu notre mission ici de parler de livres adaptés audio. C'est heureux, on a entendu Denise Archambault qui est orthophoniste, mais qui est aussi bénévole à Vues et Voix, nous parler avec passion, oui. avec cœur.
Cœur et passion.
du livre oui. adapté audio. Et je me retournerai aussi vers Madeleine Fauteu, qui est orthopédagogue, pour comprendre un peu mieux le chemin vers le livre audio adapté, puis aussi quel genre de retombées il peut avoir. Alors, dites-le nous d'abord, est-ce qu'il faut un diagnostic pour emprunter, pour utiliser le livre adapté, le livre audio?
En fait, il nous faut un plan d'intervention,
oui,
sur lequel le moyen sera inscrit.
Mm-hmm.
Cependant, de plus en plus, au secteur jeune,
mm-hmm,
c'est-à-dire au primaire et au secondaire,
ouais,
nous travaillons dans un... Nous ne sommes plus de façon catégorielle. On n'est plus dans un système catégoriel.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas précisément une évaluation diagnostique pour dire, mm-hmm, que c'est une dyslexie, dysorthographie, okay, avant de mettre en place un plan d'intervention. Alors, auparavant...
Ça prenait absolument un diagnostic. Il fallait, oui, trouver un médecin, un psychologue, un orthopédagogue ou un ergothérapeute. Absolument, oui, c'est ça.
Alors là, dès qu'il y a des difficultés d'apprentissage et que ces difficultés-là résistent, persistent, en dépit des interventions qui ont été faites par l'orthophoniste, par l'orthopédagogue, mm-hmm, on est en mesure et on se doit de faire un plan d'intervention dans lequel on va mettre en place des moyens et des outils.
Mm-hmm.
Et au niveau de l'apprentissage, ce que disait Denise, c'est qu'on oublie qu'il existe les livres audio,
bien sûr,
qui sont un moyen d'apprentissage inouï,
mm-hmm,
parce que il existe deux registres. Lorsque je parle, j'utilise un registre de langue.
Mm-hmm.
Et lorsque je lis, c'est un autre registre.
Ah,
alors,
c'est
je
important,
ne parle
ça.
Pas de la même façon que, mm-hmm, je lis ou j'écoute un
Donc,
livre.
On peut accéder à un meilleur vocabulaire, un niveau de langue plus élevé quand on lit.
Effectivement.
Ce qui n'est pas le cas de quand on parle.
La lecture, est le seul moyen, mm-hmm, d'acquérir un langage qu'on peut nommer littéraire.
Ah oui.
Parce que dans la rue, les gens ne vont pas se parler comme lorsqu'on écrit, évidemment.
Ils ne vont pas se parler au passé simple ou en employant quelques cinq syllabes. Par exemple?
Effectivement. Alors, le jeune qui n'a pas de difficulté ou l'adulte qui n'a pas de difficulté en lecture va nécessairement acquérir ce vocabulaire-là. Il va l'enregistrer en mémoire et lorsqu'il va écrire, il va l'utiliser.
Mm-hmm.
Alors, le jeune qui a des difficultés ou des entraves pour rejoindre la lecture n'aura pas cette richesse-là. Donc, lorsqu'il va venir pour réécrire un texte, lorsqu'il va venir pour avoir une structure du récit, disons, il ne, mm-hmm, l'aura pas. Et plus qu'on est en apprentissage, plus qu'on a accès à de nombreux livres, plus on peut les comparer et puis en retirer une richesse. Autrement, si ça me prend 2 mois à lire un roman, dans une année scolaire, j'aurai très peu de romans lus.
Donc, pour vrai, c'est un indicateur sur le nombre de romans de livres qu'on peut lire dans une vie pour développer son langage.
Oui, oui. Mmh. Et puis, je voudrais ajouter à ce que dit Madeleine, c'est qu'en contexte d'apprentissage, comme on le mentionnait tantôt, pour, mmh, un enfant, pour un élève à qui ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts,
oui,
ce qui serait souhaitable, c'est que cet enfant-là ait accès au livre audio adapté.
Bien sûr.
Qui pourrait, en première lecture, par exemple,
mmh. Dans la première lecture au tout départ.
Au tout départ.
Oui.
Et même, il pourrait écouter le livre et avoir une copie livre en même temps.
Donc, on peut jumeler les deux.
On pourrait jumeler les deux, oui.
Et ça se faisait, c'était très populaire. Quand j'étais enfant, il y avait toute une série de livres.
Oui. Avec les petites clochettes. Oui,
c'est ça qu'on n'ose pas nommer parce que la compagnie n'a pas besoin de notre publicité.
Oui.
Mais il reste quand même qu'on avait accès à la fois au lu et à l'oral ou à l'audio. C'était super aidant.
Oui, et le fait d'avoir une idée en première lecture du texte,
mm-hmm,
bien, ça permet de se familiariser avec les mots, de se faire une idée du contexte.
Bien sûr.
Et par conséquent, d'améliorer sa compréhension. Et puis, sans oublier que ça fait travailler la mémoire.
Ah, hein? Oui, oui.
Alors, de cette façon-là, L'enfant pourrait ensuite relire le livre, mais il reconnaîtrait beaucoup plus facilement les mots.
Et, oui, parce qu'il y aurait plusieurs supports. Il y aurait la mémoire, il y aurait quelque chose qui est plus entendu ou dans les souvenirs des entendus. Ah, c'est fascinant. Et on en parle de plus en plus du livre audio adapté. D'ailleurs, dans le cadre du Congrès international sur les troubles d'apprentissage là, que vous préparez, qui sera lancé demain, ou en fait cette semaine, pour les gens qui nous écoutent plus tard, Vues et Voix va donner pour la première fois une conférence. De quoi il va s'agir, Madeleine Fauteux?
Alors, on va traiter du livre audio comme étant une valeur ajoutée pour les personnes vivant avec un trouble d'apprentissage.
Mm-hmm. Donc, on martèle le clou là un peu.
Oui, effectivement, parce que les gens croient que le livre audio adapté, c'est-à-dire... est utilisé par des personnes qui ont une déficience visuelle, disons, ouais. mais ne pensent pas aux troubles d'apprentissage.
Voilà.
Et Lucie Robidas, lors de cet atelier, va accompagner nos participants. Mm-hmm. Elle va démontrer comment se fait le chemin d'accès.
Oui. Du début à la fin,
ah oui. pour un enseignant, comment il peut emprunter pour ses
Donc,
élèves.
Donc, les outils seront clairement démontrés. Surveiller ce colloque sur les troubles d'apprentissage. Sinon, merci beaucoup, Denise Archambault, orthophoniste et bénévole à Vues et Voix. Merci. Madeleine Fauteux.
C'est un plaisir.
C'est un vrai plaisir. Madeleine Fauteux, orthopédagogue à l'Institut des troubles d'apprentissage. On aura plus d'informations sur la page avec le lien vers votre site web.
Effectivement.
Au plaisir.
Vous écoutez Accès libre.
Sur la rive sud, à tes côtés. arrive seul à tes côtés.
Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
À chaque émission, on vous présente autant que possible un essai ou un récit à caractère historique. Le livre présenté est disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Rappelons que si vous présentez une déficience perceptuelle, donc ça peut être une déficience visuelle, ça peut être lié à l'apprentissage ou à d'autres difficultés, vous pouvez vous prémunir de ces livres audio adaptés. Je vous invite à entendre la quatrième de couverture du titre « Adieu Rive-Sud PQ, les folles nuits de Montréal » de l'auteur Jean-Louis Morgan aux éditions, plutôt les éditeurs réunis.
Année 1950. Tout juste remis d'une impossible histoire d'amour, Éric Sancartier est banni de la Rive-Sud par l'influent bandit qui l'employait. Le jeune journaliste parvint à survivre de peine et de misère à Montréal, sur la scène médiatique, en cumulant les emplois et les articles indignes de son talent. Il va même jusqu'à fréquenter les pires endroits afin d'approfondir ses enquêtes. Sancartier trouvera de nombreux sujets de reportage dans des cabarets de la métropole tenus par le Monde interlope, où il côtoiera différents artistes qui ne tarderont pas à dominer le showbiz québécois. L'ancien trouble-fête de Longueuil-Est croisera le chemin du légendaire Pax Plante en pleine lutte contre la corruption qui afflige la ville. Ce chevalier blanc deviendra le mentor de Sancartier, à qui il exposera sa vision de l'intégrité, ce qui n'empêchera pas son imprudent élève de se laisser enivrer par une femme liée à la mafia et à ses terrifiantes pratiques. Saura-t-il éviter de nouveau un cul-de-sac amoureux comme celui qu'il a laissé derrière lui sur la rive sud dont il jure n'avoir rien oublié? Jean-Louis Morgan est journaliste et écrivain, auteur de nombreux ouvrages à succès. Il est notamment à l'origine de plusieurs traductions devenues des best-sellers.
Adieu rive sud de PQ, les folles nuits de Montréal de Jean-Louis Morgan. Disponible à la BNQ par le biais de son service québécois du livre adapté, SQLA, entendez maintenant un autre extrait.
À bord d'une vieille Ford 1936, en panne par un jour d'hiver du début des années 50, transi de froid, j'attendais une hypothétique dépanneuse en songeant à mon avenir. Cette voiture de couleur violet délavée, dont le V8 avait tourné plus de 20 ans, m'avait été vendue 100 $ par un fermier aux fins de mois serrés. Quant à moi, exclu de Longueuil-Est, la cité de la misère où j'avais cru jouer mon rôle comme petit patron d'un hebdo, je me retrouvais pratiquement interdit de séjour sur la rive sud à la suite d'accrochages avec une bande de politiciens locaux corrompus. Il me fallait essayer maintenant de reprendre mes études de lettres en finissant ma maîtrise ou encore gagner ma vie. Une chose était certaine. J'avais acquis de l'expérience dans un curieux métier, celui de nouvelliste au service d'un hebdomadaire municipal. J'avais travaillé de longs mois dans la poussière jaunasse d'une ville dépotoir ressemblant à un chantier de construction abandonné et appris à vivre avec des édiles manipulateurs, brutaux et primaires, qui édifiaient leur petit empire. En dépit de tous leurs défauts, ces derniers possédaient les qualités que l'on prête à certains vieux juges de paix ou conciliateurs des milieux criminels. Je devais apprendre par la suite qu'ils n'étaient que la touchante caricature de personnes, pourtant bien pensantes, répondant au titre d'honorable, ou mieux, de très honorable, et balançant des billets de 5 $ lors des quêtes à la grande messe. Échoué sans un sou à Montréal, il ne me restait plus qu'à faire du porte-à-porte pour tenter de monnayer l'assez peu commune expérience que j'avais prise dans la pratique du journalisme municipal en milieu faisandé. Au cours de ces aventures, j'avais un peu perdu de mon innocence et de ma naïveté, ce qui allait m'être éventuellement utile par la suite. Parallèlement, ces déconvenues s'étaient aussi soldées par une vive peine d'amour, ce qui ne présentait aucun intérêt pour quiconque que moi-même. J'essayais donc de mettre de côté tout ressentiment affectif pour me concentrer sur la recherche d'un travail dans mon domaine. subsistant en vendant des potées à 50 sous l'unité, aux petits journaux à sensation, je ratissais dans mon tas de ferraille les rues du Montréal cabaretier et louche, où je n'avais pas à attendre longtemps pour trouver des sujets d'articuler. Par exemple, il suffisait de traîner tard au coin des rues Saint-Laurent, dites la Main, ou rue principale en anglais, et Sainte-Catherine, le temps de manger un hot-dog à 10 sous au Montréal Pool Room ou de prendre un verre de bière dans une taverne aux tables poisseuses pour se faire aborder par quelques traîne misère plus ou moins interlope qui vous racontait sa vie alors que l'on ne lui demandait rien. Vous proposait de la drogue, parfois une arme dont le numéro de série avait été limé. Et garantit n'avoir jamais servi, ou encore quelque objet plus ou moins précieux qu'il avait acquis, comme on s'en doute, par des moyens illicites.
Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
La flamme s'est éteinte hier au stade de Pyeongchang. C'est ce que nous rappelle Émilie Bouchard-Labonté qui vient avec nous, qui est au téléphone pour nous raconter un peu les faits saillants de ce moment palpitant. Bonjour Émilie Bouchard-Labonté.
Bonjour Benoît.
Bonjour, content que vous soyez là. Vous avez quand même parcouru toutes les bonnes épreuves pendant plusieurs jours en fait.
Oui, bien, les Jeux paralympiques viennent se terminer, comme vous venez de le dire. Après 9 jours de compétition, ça a été une récolte historique pour le Canada qui a terminé ses Jeux paralympiques avec 28 médailles, dont 8 médailles d'or. Donc, ça leur permet de prendre le 2e rang au classement des médailles, juste derrière les Américains.
Impressionnant, qui, bravo!
Ouais, les Américains, 36 médailles. Donc, un petit peu plus de médailles, par contre, avec 13 médailles d'or. Puis, il y a une de ces médailles d'or-là là, qui aurait pu aller au Canada en finale de hockey.
Elle est un peu contestée, c'est ça? Non?
Ben, c'est pas qu'elle a été contestée, sauf que ça a été très, très serré. Le Canada et les États-Unis s'affrontaient pour la première fois de l'histoire des Jeux paralympiques en grande finale de ces Jeux paralympiques. Mm-hmm. Et ça, après deux victoires, deux médailles d'or d'affilée pour les Américains, et ça s'est vraiment passé proche que le Canada l'emporte. Avec 37 secondes à faire, la victoire était au Canada, mais malheureusement, les Américains ont créé l'égalité, puis ça s'est rendu en prolongation, et finalement, les Américains ont marqué le but vainqueur. Alors, vraiment, défaite crève-cœur hier pour nos Canadiens.
Et pourtant, on en avait beaucoup, là. On était très impressionnés par le travail de Dominique Larocque, le gardien de but. Hein, c'est pas un manque de finesse ou de talent, là. C'est vraiment sur les chapeaux de roue là, que ça s'est réglé, là.
Oui, tout à fait. Puis Dominique Larocque n'a pas à rougir. Là, il a repoussé plusieurs rondelles des lancers des Américains. Puis ça a été vraiment un jeu paralympiques très offensif pour le Canada. Dominique n'a pas été le gardien partant pour tous les matchs. Là, mais si on regarde un peu leur fiche, là, victoire de 7-0 contre la Corée en demi-finale, des blanchissages de 8-0 contre la Norvège, 7-0 contre la Suède, 10-0 contre l'Italie. Alors vraiment, ils ont été très, très bons sur le niveau offensif, mais aucun but était rentré là, avant la finale Canada-États-Unis hier.
Mmh. Et il y a aussi du côté du ski para-alpin, en fait, des jeux réussis pour les athlètes qui se présentaient pour la première fois. Là. On parle de qui?
Oui, en fait, il y a plusieurs médailles qui ont été amassées pour le Canada en ski para-alpin, mais je voudrais vous parler d'une de ces personnes-là, qui est d'Alexis Guimont, âgé de 18 ans, de Gatineau. Il en était à ses premiers Jeux paralympiques à son âge de 18 ans. C'est très bon. Et remporter la médaille de bronze au slalom géant, à peu près vers la moitié des Jeux paralympiques la semaine dernière, après avoir fait 2 quatrièmes places. Donc, il est passé très près 2 fois à des quelques dixièmes de centimes de seconde. Puis, finalement, a réussi à remporter une médaille de bronze. Et elle est historique, cette médaille-là, depuis que ça faisait 20 ans qu'en ski debout aux Jeux paralympiques, un Canadien n'avait pas remporté une médaille. Alors, à 18 ans, il marque vraiment l'histoire du pays dans cette discipline. Puis, ça, c'est vraiment très prometteur pour la suite à ses premiers Jeux paralympiques. Il y avait aussi, du côté québécois, Frédéric Turgeon chez les femmes qui skiait aussi en ski debout. Ça a été des Jeux paralympiques un peu plus difficiles pour elle, je vous dirais. En 5 épreuves, elle a fait rallier la ligne d'arrivée juste à une épreuve au slalom géant, elle aussi. Plus difficile parce qu'elle revient d'une blessure à une cheville. Elle n'était pas très, très stable sur sa cheville gauche. Puis bon, elle n'a pas de cheville droite. Alors, c'est un peu plus compliqué quand on a juste une cheville de bien descendre avec la piste. Les pentes étaient dures. Les parcours étaient quand même assez difficiles. Donc, c'est la raison pour laquelle là, qu'elle nous a expliqué que c'est un petit peu plus difficile pour elle de rallier la ligne d'arrivée. Donc, quand même, un résultat pour elle, une 9e place. Mais c'est très vraiment prometteur pour l'avenir là, quand elle sera complètement rétablie.
De toute façon, l'histoire est refaite avec ces Jeux. Vous le dites, beaucoup de médailles, un retour en ski à para-alpin avec Alexis Guimont. Mais il y a aussi Marc Arends qui mériterait qu'on en parle, qui aurait marqué l'histoire un peu à sa façon.
Absolument. Marc Arends, c'est un athlète en ski paranordique et en parabiathlon qui vient de l'île du Prince-Édouard. Il est âgé de 28 ans et a vraiment établi une nouvelle marque dans l'histoire canadienne aussi à ses Jeux paralympiques. Donc, je trouvais ça important d'en parler puisque c'est en plus, c'était lui le porte-drapeau hier lors des cérémonies de clôture pour le Canada. Il était médaillé 5 fois au Mondiaux l'an passé. Donc, c'est quand même assez optimiste pour ses Jeux paralympiques. Mais il va avoir gagné 6 médailles à Pyeongchang, dont une médaille d'or remportée en parabiathlon. C'est la première médaille d'or remportée en parabiathlon pour le Canada. Donc, une médaille d'or, 2 médailles médailles d'argent et 3 de bronze. Et lui a fait du parapiathlon et du ski paranordique à ses Jeux, donc 2 disciplines. C'était ses 3e Jeux paralympiques. Puis comme,
presque 10% des médailles à lui seul, même plus.
Oui, exactement. Donc, vraiment, c'est grâce à lui, je pense, qu'on a pu vraiment augmenter faire une récolte historique là, pour le Canada à ces Jeux. Ouais. Il en est un très grand contributeur.
Oui, voilà. Bon, et sinon, il y a une mention spéciale que vous aimeriez faire à une autre athlète.
Oui, bien, parlant un peu de ski paranordique, j'aimerais quand même pas passer sur le silence les performances de Cindy Ouellet, qu'on connaît comme capitaine de l'équipe du basketball en fauteuil roulant, qui a participé à 3 Jeux paralympiques d'été à Pékin, à Londres, puis à Rio l'année dernière. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est en ski paranordique, à ses 4e Jeux paralympiques. Elle fait partie des rares athlètes canadiennes qui vont avoir fait 2 Jeux paralympiques. On en compte quand même quelques-uns, mais Cindy est vraiment fait partie d'un club select maintenant.
Ah oui,
Déjà un petit peu discret pour elle, mais étant vraiment à ses débuts en ski paranordique, là, alors c'est quand même normal. On parle de 17e et 18e place là, pendant ces 3 courses de la semaine paralympique. Mais est-ce qu'elle vise, elle est vraiment là pour prendre l'expérience et elle vise là, les Jeux de Tokyo en basket et ensuite les Jeux de 2022 à Pékin de retour en ski de fond.
Et vous êtes déjà un pied ou un ski dans l'avenir. Tokyo 2020, il faudra surveiller Cindy Ouellet, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qu'il faudra surveiller?
Les prochains Jeux paralympiques d'été, bon, ça s'en vient plus tôt qu'on pense. Ça va vite, hein, les années. Alors oui, Cindy Ouellet sera assurément quelqu'un à surveiller. J'ose croire aussi qu'on aura une Aurélie Rivard de retour en paranatation,
ah oui,
qui avait été la reine des Jeux paralympiques de Rio, et plein d'autres athlètes là, qu'on pourra surveiller en cours de route. Quelques recrues, probablement nécessairement aussi des Québécoises au sein de l'équipe nationale de basket en fauteuil roulant qui accompagneront Cindy. Tout est à venir là, dans les 2 prochaines années. On va jeter un coup d'œil très, très, très serré sur ce qui va se passer.
Merci, Émilie Bouchard, la bonté. Ça nous fait du bien. On les revit un peu, ces Paralympiques, grâce à vous. Et on vous retrouve bientôt. Rappelons que vous êtes de l'équipe de Sportcom. Merci.
Au revoir.
Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, horizon sans frontières, rue sous-américaine. Personne ne s'amuse à jouer à la roulette. Qui sera le premier à faire sauter la planète? Revenir en arrière à des temps primitifs, trouver l'eau et l'air. Avant Adam et Ève, le serpent et la poule.
question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Et je vous poserai la question. En surplus, est-ce que vous saviez que ça existait, les livres audio ou les livres audio adaptés? Parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de gens, que ce soit même les professeurs, les professionnels, qui ne soient pas au courant. Alors, je vous invite à nous raconter ces expériences que vous avez eues. N'oubliez pas que vous pouvez le faire sur notre site web, sur canalm.vusebois.com, ou c'est sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pourriez en parler autour de vous. D'ailleurs, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter l'alternative qu'on propose ici à Vusebois, en fait, des livres qui vous sont rendus grâce à toutes sortes de distributeurs, mais qui sont faits ici, qui s'adressent à toute personne qui présente une déficience perceptuelle. Ça veut dire là, que peu importe que vous soyez une personne aveugle ou même que vous ayez des troubles d'apprentissage, ça s'adresse à vous. Et il y a même un programme particulier pour ses élèves, parce qu'on le disait plus tôt, il y a parfois des nuances, même dans la manière de proposer les livres, on est plus dans l'interprétation que l'expression, c'est beaucoup de monde, ces jeunes-là. Rappelons qu'il y a certainement une personne sur 10 qui présente des difficultés d'apprentissage, mais aussi une personne sur 2 au Québec qui a des difficultés de lecture. Et encore, il faut le dire, il y a plein de gens qui sont issus de l'immigration, des gens qui n'ont pas le français comme première langue. Alors, toutes ces personnes-là peuvent profiter du livre audio. Et je vous rappelle que Vusebois propose un programme de livre audio adapté que certains appellent le Lulu, je pense. Est-ce que c'est son nom, Lulu? Je suis même plus sûr. Mais donc, vous pouvez vous en prémunir de ces livres adaptés audio gratuitement au SQLA. Vous pouvez rejoindre le 514-873-4454 pour avoir de l'information, pour peut-être même accéder à cette fabuleuse banque de presque 17 000 titres. Voilà. Continuez aussi d'en parler sur les réseaux sociaux, de répondre à la question. Je vous rappelle que c'était sur les livres audio adaptés. Je pense que vous avez bien compris. Et merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu là, sur certains groupes où on a présenté la question sur Facebook, les groupes de parents de Rosemont, de Montréal et même d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir été là. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés à l'émission pour nous faire comprendre les livres audio, mais aussi l'importance de la Commission des droits de la personne, je pense à Linda Gauthier, l'importance de bien se rappeler de ces Jeux paralympiques. Merci, Émilie Labonté. J'oublie pas les gens de l'équipe qui permettent, semaine après semaine, de faire cette émission. Je pense ici à Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Benoît Rassette. On se reparle la semaine prochaine. Et pour l'instant, on peut même s'entendre pour faire entendre la littérature. Voilà, bon accès libre tout le monde.